Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale sur IDFM Radio. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, je suis ravi de vous retrouver et on est ensemble jusqu'à midi. Au programme aujourd'hui, le brillant violoncelliste et chef d'orchestre Victor-Julien Laferrière nous fait redécouvrir les suites d'orchestre méconnues de Tchaïkovski. Le maestro Joseph Svensson, avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, relève le défi de proposer un medley symphonique en privilégiant 2 heures de musique sur les 16 heures de la tétralogie de Richard Wagner. Mais tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio d'IDFM Radio le pianiste Laurent Vachal. Après la double publication des œuvres complètes pour violoncelle et piano avec Pauline Bartissol, pour violon et piano avec Ji-Yoon Park, Laurent Vachal poursuit son exploration de la musique de Fauré avec une intégrale des œuvres pour piano. Bonjour Laurent Vachal.
Bonjour Christophe.
Vous êtes reconnu comme un fervent interprète de la musique française et un ardent défenseur de ses compositeurs oubliés. Vous avez à votre actif une discographie comportant une 40aine d'enregistrements salués par la presse française et étrangère en solo et en musique de chambre, consacré à Saint-Saëns, Franck, Chausson, Debussy, mais aussi à Magnard, Ducas, Pierné, Vierne, Gaubert, Schmitt ou Tomasi. En 2011, vous êtes nommé aux Victoires de la musique classique dans la catégorie « Meilleur enregistrement de l'année » pour l'intégrale de la musique de chambre avec vent de Saint-Saëns, réalisée avec les solistes de l'Orchestre de Paris. En 2017, vous êtes nommé aux International Classical Music Awards pour votre enregistrement consacré aux transcriptions de Léopold Godowsky. Et en 2022, c'est 4 fois pour vos préludes de Louis Vierne et pour vos 3 albums Paris 1900 avec le flûtiste Vincent Lucas, le hautboïste Alexandre Gattet et le trompettiste Éric Aubier, dont nous nous étions fait d'ailleurs l'écho à ce micro. Vous êtes lauréat de nombreux concours internationaux, partenaire très recherché en musique de chambre, et vous vous produisez régulièrement sur des scènes prestigieuses à Paris, à l'étranger, en Europe et dans le monde entier, ainsi que dans de nombreux festivals. Et pour l'année du centenaire de la mort de Fauré, vous publiez l'intégrale de ses œuvres pour piano et vous remportez le choc de l'année, décerné par la revue Classica, un coffret de 4 CD chez Indécence Calliope. C'est la première intégrale absolument complète, n'est-ce pas, Laurent Vachal?
Oui, tout à fait, parce que j'ai inclus dans mon intégrale l'enregistrement de pièces de jeunesse inédites du vivant de Fauré et qui ont été éditées tout récemment, il y a quelques années seulement, par les éditions Barenreiter. Alors c'est des pièces très jeunes hein, que Fauré a écrit entre 17, 18, 19 ans, donc il s'agit pas de pièces de chefs-d'œuvre inoubliables, mais voilà, dans le cadre d'une intégrale, il me semblait intéressant de les inclure.
Bien sûr, et c'est toujours intéressant d'écouter une création même d'un jeune homme.
Oui, oui, puis ça permet de voir aussi son parcours. Oui, oui, c'est très intéressant, évidemment.
Et d'autant que son répertoire pour piano est considérable.
Oui, alors l'intégralité de sa musique pour piano, c'est environ 70 pièces, près de 5 heures de musique. Oui, donc c'est énorme. En fait, je crois que dans la musique française, seul Debussy a écrit plus, il me semble, pour le piano, oui.
Oui, donc c'est vraiment, il est dans le top 3, en tout cas, des compositeurs français pour le piano.
Oui, 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 c'est une musique essentielle hein, dans l'histoire de la musique, pour le répertoire français et pour la musique en général. Hein, c'est un grand compositeur et qui n'a certainement pas la place qu'il devrait. Pour diverses raisons, on connaît assez mal sa musique.
Alors, on connaît bien sûr le Requiem, puis on connaît aussi quelques bijoux, la Sicilienne, la Pavane, l'Élégie.
Oui, oui, il y a c'est souvent le cas hein, de ces compositeurs. On connaît un certain nombre de pièces et tout le reste, on connaît pas du tout. Oui.
Et pourquoi, en fait, selon vous?
Alors il y a de multiples raisons. Je pense que tout d'abord c'est on a tendance en France finalement à peu défendre nous-mêmes notre patrimoine qui est d'une richesse extraordinaire et on a tendance à jouer plus la musique allemande, Chopin. Pour la musique française, on joue beaucoup Debussy, Ravel, et on connaît moins tout le reste. Et c'est bien dommage parce que c'est une musique passionnante et extraordinaire.
Et ce sont des trésors que vous défendez, Laurent Vachal.
Oui, c'est un peu mon créneau depuis un certain nombre d'années. Je l'ai fait beaucoup avec des compositeurs moins connus que Fauré, hein, mais la musique de Fauré, on la connaît assez mal, hein, la musique de piano, oui.
Alors, quel conseil pour nos auditeurs, pour débuter, pour essayer de comprendre et de connaître la musique de Fauré pour le piano?
Eh ben, il faut se procurer mon intégrale et tout écouter. Alors oui, il y a des pièces plus abordables que d'autres. Hein. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les œuvres de la dernière période, elles sont plus complexes. Il faut se familiariser un peu avec son langage qui est très très particulier. Mais si on écoute toutes les œuvres de la première période. Il y a une séduction immédiate, elles sont très très faciles à écouter.
Et en particulier les romances sans paroles, qui sont un peu influencées par Félix Mendelssohn.
Oui, pas qu'un peu, hein, c'est vraiment un hommage et oui, c'est tout 100% Mendelssohn, oui.
Eh bien, écoutons la troisième des romances sans paroles sous vos doigts, Laurent Vachal. Notre invité en balade musicale, le pianiste Laurent Vachal, interprétait la troisième des romances sans paroles de Gabriel Fauré. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, on distingue plusieurs périodes, trois périodes dans l'écriture de Gabriel Fauré.
Oui, tout à fait. On a une première période où Fauré s'inscrit vraiment dans la lignée des grands compositeurs romantiques de piano, Mendelssohn, dont on vient de parler, Chopin, Schumann, Liszt, un peu. Je parle plus de l'écriture, de la manière d'écrire pour piano, hein, que la musique proprement dite. Hein, il s'agit pas de, enfin, Fauré ne ressemble pas à Chopin ou Schumann, mais il écrit, son écriture est vraiment influencée par ses compositeurs dans cette première période. Mais on a quand même tout de suite une personnalité affirmée et quelque chose de très particulier qu'on perçoit dans cette première période qui va mûrir et se développer tout au long de sa vie. On va aboutir à une seconde période où là cette fois-ci on a un langage vraiment très caractérisé. On reconnaît immédiatement le style de Fauré dans la seconde période, riche en chefs-d'œuvre d'ailleurs, avec notamment les sixièmes, septièmes nocturnes, thèmes et variations. Et puis, Fauré va avoir la chance d'avoir une longue existence. Hein. C'est pas le cas de tous les compositeurs, malheureusement, pour nous.
En particulier Chopin et Mendelssohn.
Oui.
Malheureusement pour nous et pour eux surtout.
Et à la fin de sa vie, Fauré va poursuivre son exploration d'une harmonie très très particulière, très singulière, et il va commencer à écrire une musique plus austère, avec une écriture plus dépouillée, une texture moins fournie, une musique avec laquelle il faut un peu se familiariser. C'est très particulier, mais c'est une musique extraordinaire, toutes les œuvres de la troisième période. Période caractérisée aussi par les problèmes d'audition de Fauré, qui ont certainement une influence sur sa manière d'écrire.
Eh bien, on va rester dans la première période avec l'impromptu numéro 2 en fa mineur, opus 31, par Laurent Vachal, notre invité.
Thank you.
Impromptu numéro 2 de Gabriel Fauré par Laurent Vachal, qui a signé une magnifique intégrale de sa musique pour piano, récompensée par la critique et en particulier par le choc de l'année 2024 du magazine Classica. Laurent, c'est une musique qui vous touche depuis votre enfance, celle de Gabriel Fauré.
Oui, c'est j'ai toujours aimé la musique de Fauré. Je l'ai découverte très tôt, notamment avec le quatrième nocturne que j'ai joué à 12-13 ans, que j'ai adoré et par lequel j'ai découvert sa musique et j'ai toujours eu cette affection pour la musique de Fauré, oui.
Et on la trouve bien entendu dans votre coffret, dans votre interprétation. Cette pièce qui est ce quatrième nocturne, bien sûr.
Ah oui, tout à fait. C'est une pièce qui a la particularité. Chez Fauré, on a quand même un certain nombre de pièces que assez faciles à jouer, qu'on peut jouer assez tôt et ou par des amateurs. Et c'est une musique extraordinaire.
Et que Fauré d'ailleurs présentait dans les salons parisiens.
Oui, à l'origine, Fauré a beaucoup été joué dans les salons, hein, comme c'est le cas au XIXe siècle, hein, déjà avec Chopin à Paris, et ça se poursuit jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui.
Je pensais à l'hôtel de Polignac.
C'est
la Fondation Saint-Gerre-Polignac qui organise toujours des concerts avec beaucoup de jeunes musiciens formidables.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Madame de Polignac était fervente admiratrice de Gabriel Fauré et le recevait régulièrement.
Alors après la première période, il y a eu la seconde. Qui écrivez-vous dans les notes de présentation de votre coffret, parce que vous faites aussi pédagogue, Laurent Vachal. Ce sont vers les années 1890, je crois.
Oui, et ça correspond à la période où sa vie s'améliore, où il est enfin reconnu comme compositeur. Il va être nommé professeur au Conservatoire de Paris, professeur de composition. Ça va être d'ailleurs une classe prestigieuse, un des plus grands professeurs qu'on ait pu avoir au Conservatoire de Paris. Il sera nommé directeur du Conservatoire de Paris par la suite. Son existence s'améliore. Il n'est plus obligé de donner des cours de piano, hein, parce qu'il faut imaginer que même Fauré, jusqu'à 50 ans passés, donnait des cours de piano, effectuait les services religieux à l'église de la Madeleine.
Comme organiste.
Oui. Et c'est durant cette période, on a un certain nombre de grands chefs-d'œuvre pour piano, dont le thème et variation, dont on va entendre un extrait, je crois, maintenant.
Absolument, on va entendre le thème et les quatre premières variations par notre invité, Laurent Vachal. Thank you. Gabriel Fauré sur IDFM Radio. Thème et variation en ut dièse mineur, opus 73, du moins les quatre premières, par notre invité en balade musicale, Laurent Vachal. Vous aviez un mot supplémentaire sur cette pièce.
Oui, c'est intéressant. Cette pièce, elle a été composée par Fauré alors qu'il était directeur du conservatoire. Et en fait, il s'agissait d'une une pièce composée spécialement pour le concours de piano de fin d'année. Et comme on faisait beaucoup à l'époque, hein, fin 19e, début 20e, les compositeurs écrivaient des pièces spécialement pour les concours des étudiants. C'est le cas de ce magnifique thème et variation. Une des plus belles œuvres, sans doute, qui a été écrite pour un concours du Conservatoire de Paris.
Alors, cette intégrale, c'est un travail de longue haleine et une entreprise lourde, non, pour parvenir à une telle somme.
Ah oui, ben c'est sûr que ça a été une longue aventure pour moi, ce qui s'est étalé sur près d'un an et demi. Hein. Évidemment, hein, quand il s'agit de jouer 5 heures de musique, c'est énormément de travail. Alors évidemment, moi, c'est comme c'est une musique qui m'est très familière, hein, que je joue depuis toujours, entre guillemets. Donc je suis baigné dedans, hein. Mais oui, ça a été un énorme travail sur plus d'une année, oui.
Combien de séances d'enregistrement studio ?
Alors ça m'a représenté une quinzaine de jours d'enregistrement réalisé au studio de Meudon sur un piano Steinway moderne, un très beau piano.
Ça s'entend d'ailleurs.
Merci.
Très belle prise de son. Alors troisième période de Fauré, malheureusement pour lui, je crois que c'est au début des années 1903. Qu'il ressent justement ces premiers symptômes qui vont être très difficiles, qui vont ne faire que s'aggraver. On pense évidemment à Ludwig van Beethoven.
Oui, c'est amusant parce qu'il y a pas mal de points communs finalement entre Fauré et Beethoven. Chez Beethoven, il y a également trois périodes. Il a eu ses problèmes de surdité à la fin de sa vie également, comme chacun le sait. Chez Fauré, c'est encore un peu différent de chez Beethoven. C'est plus qu'une baisse de l'audition, c'est encore plus terrible pour un musicien. C'est que à la fin de sa vie, il entendait faux. Il entendait les aigus trop hauts, les graves trop bas. Donc, il ne pouvait plus. C'était un cauchemar pour lui d'écouter de la musique. Il le faisait plus d'ailleurs, je crains.
C'est le comble tout de même.
Donc, ben oui. Alors après, évidemment, ben comme chez Beethoven, ça n'empêche pas de composer. Hein, tout compositeur est capable de composer dans sa tête. Hein. Et ça a eu certainement une influence dans sa musique de piano parce que ce que je disais, donc le problème d'entendre faux dans les aigus, dans les graves, en fait l'ambitus a tendance à se resserrer dans le médium dans sa musique de piano. C'est très très significatif. Fauré utilise beaucoup moins l'extrême aigu et l'extrême grave et tout a tendance à se resserrer dans le médium. C'est très frappant, hein, si vous observez les partitions de piano de Fauré à partir des années 1900.
Alors, il y a dans cette période des partitions qui sont moins connues, d'ailleurs, qui sont beaucoup moins jouées que celles correspondant aux deux premières périodes.
Oui, on a tendance à moins jouer toute cette musique, oui, de la dernière période.
Et pourtant, il y a de très très belles pièces comme les préludes.
Oui, ça c'est un cycle magnifique. Complètement méconnu des pianistes eux-mêmes et c'est regrettable, un des chefs-d'œuvre de Fauré.
Sont très rarement, pour ainsi dire d'ailleurs, jamais inscrits dans les programmes de concert.
Oui, c'est bien regrettable.
Eh bien, on va se rattraper, grâce à vous Laurent Vachal, on va vous écouter dans le troisième prélude, opus 103, de Gabriel Fauré. Thank you. troisième prélude de Fauré, un nouvel extrait de cette magnifique intégrale de notre invité, le pianiste Laurent Vachal, dans un coffret de 4 CD sorti sous le label Indécence Calliope. Avez-vous des dates de concert, Laurent ?
Alors, j'aurai justement l'occasion de jouer prochainement Fauré en récital, accompagné d'autres compositeurs d'ailleurs, un peu de Camille Saint-Saëns, de Debussy. Ce sera à la Charité-sur-Loire le 1er mars. Je ferai ce récital avec beaucoup de pièces de Gabriel Fauré.
Et où serez-vous, dans le théâtre ou dans la basilique exceptionnelle ?
Écoutez, bonne question, je ne sais plus.
Bon, tant pis. Vous avez également gravé et sorti presque en même temps que votre coffret de l'intégrale pour piano, les œuvres complètes pour violon et piano de Fauré, avec la violoniste Ji-Yoon Park, qui est une magnifique interprète.
Oui, tout à fait. Elle est violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Qui est une référence.
Oui, c'est sûr. Et également une magnifique chambriste. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer cette intégrale des pièces pour violon et piano avec elle, oui. Parallèlement à donc l'intégrale que j'ai gravée aussi des pièces pour violoncelle et piano avec Pauline Bartissol, comme vous l'avez signalé tout à l'heure.
Alors c'est un très beau disque que nous avions présenté dans une émission précédente. Il contient alors les deux sonates.
Oui, il y a deux sonates pour violon et piano, oui. Et un certain nombre de pièces courtes. Comme souvent chez Fauré, hein, il y a ce mélange de grandes sonates développées et des pièces très courtes.
Certain nombre de petits bijoux, comme on dit.
Oui, il y a la fameuse berceuse, notamment, bien connue, des violonistes.
Alors, cette première sonate, c'est l'une des œuvres les plus connues. Et on pensait à la référence, d'ailleurs, à la sonate de Vinteuil, introuvable, que cite Proust dans La Recherche du Temps Perdu.
Oui. Alors Marcel Proust, qui était un grand passionné de la musique de Fauré, hein, et probablement, et donc il connaissait bien cette sonate, et on est c'est sans doute une des sonates qui est à l'origine de la sonate de Vinteuil, quoique il s'agirait plutôt d'une sonate de Saint-Saëns, hein, d'après une lettre de Marcel Proust. Mais la première sonate de Fauré. Tout à fait dans l'esprit de la sonate de Vinteuil. Oui.
Alors on va se quitter, Laurent Vachal, avec le troisième mouvement, Allegro vivo, de la première sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré, Ji-Yoon Park violon, Laurent Vachal piano. Thank you. troisième mouvement de la première sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré, Jae-yoon Park violon et notre invité Laurent Vachal au piano. Eh bien, merci beaucoup Laurent Vachal.
Merci Christophe pour cette invitation. J'étais ravi d'avoir cette occasion de faire découvrir ou redécouvrir à certains la musique de Fauré.
Ben, nous avons été aussi ravis. Bonne journée à vous.
Merci, à bientôt.
À très vite, j'espère.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Le brillant violoncelliste et chef d'orchestre Victor-Julien Laferrière nous fait redécouvrir les deux premières suites d'orchestre de Tchaïkovski. C'est un projet ambitieux, porté par le lauréat du premier prix du concours Reine-Élisabeth en 2017, avec l'orchestre Consuelo. Le disque est sorti sous le label Mirare. Les suites d'orchestre de Tchaïkovski sont des œuvres fascinantes, mais qui restent parmi les œuvres les moins connues de sa production orchestrale, évincées par ses symphonies et ses suites de ballets. Casse-Noisette et le Lac des Cygnes. La suite numéro 1, opus 43, est composée entre août 1878 et avril 1879, juste après le célébrissime concerto pour violon. Elle comporte 6 mouvements, dont un intermezzo où se reconnaît le mieux l'atmosphère tchaïkovskienne entre ballet, symphonie et opéra. Victor-Julien Laferrière est au pupitre de l'orchestre Consuelo. Tchaïkovski sur IDFM Radio. L'intermezzo de la suite numéro 1 par l'orchestre Consuelo, dirigé par Victor Julien Laferrière, extrait d'un disque paru sous le label Mirare, offrant une nouvelle perspective pour redécouvrir les deux premières suites pour orchestre de Tchaïkovski.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Devant l'ampleur du Ring de Richard Wagner, Joseph Svensson, le nouveau directeur musical de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, propose une version réduite d'une durée de 2 heures environ sur une partition de plus de 16 heures. Le double album Ring Odyssey, sorti sous le label Alpha Classics, est un florilège conçu comme une épopée symphonique ponctuée, comme chez Gustav Mahler, de quelques airs fameux chantés. Le chef américain Joseph Svensson, qui est aussi compositeur, a réussi à joindre élégamment les extraits des 4 opéras de Wagner, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux, en les reliant grâce à des harmonies communes. Le résultat permet aux amateurs une entrée très accessible dans l'univers wagnérien grâce à un chef qui ressent profondément cette musique et qui est soutenu avec empathie par l'excellent orchestre national Bordeaux-Aquitaine. La première partie de la Ring Odyssey débute avec L'Or du Rhin, le prologue de la tétralogie dont une nouvelle production est présentée à l'Opéra Bastille. avec ses extraits symphoniques de L'Or du Rhin de Richard Wagner, savamment choisis et reliés entre eux par le compositeur et chef Joseph Svensson, à la tête de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, extrait du double album Ring Odyssey, sorti sous le label Alpha, nous venons de refermer notre balade musicale sur IDFM Radio. Je vous donne rendez-vous dès demain matin dimanche à 11h. Merci à Francky à la technique et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.